Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, la démission du chef de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, l'appel des envoyés internationaux dans la région des Grands Lacs à la reprise du dialogue au Burundi, le début de la nouvelle série de pourparlers sur la Libye à Genève, les migrants somaliens fuient le Yémen, en dossier coup de projecteur sur la situation humanitaire au Soudan du Sud, enfin le PAM s'active au Myanmar suite aux inondations.
Enough is enough. Today, I have accepted resignation.
Le secrétaire général a annoncé lors d'un point de presse mercredi la démission de son représentant spécial pour la République centrafricaine et chef de la mission onusienne dans le pays, Babacar Gaye. Cette démission fait suite aux dernières allégations d'abus commis par des casques bleus, selon lesquels les soldats de la paix auraient tué au début du mois un adolescent de 16 ans et son père et violé une fillette âgée de 12 ans lors d'un raid à Bangui. Ban Ki-moon, qui devant les journalistes a dit éprouver un sentiment de colère et de honte à la suite de ces allégations. Après avoir demandé à Babacar Gaye de démissionner, le secrétaire général a demandé la tenue ce jeudi 13 août d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ainsi que d'une vidéoconférence avec ses représentants spéciaux pour renforcer sa position et son message.
Je veux que les dirigeants sachent qu'ils sont responsables de leurs troupes, de leurs policiers et de leur personnel civil. Ils doivent également veiller à ce que tous reçoivent une éducation et une formation continue sur les droits de l'homme. Je veux que les États membres sachent que je ne peux pas le faire tout seul. Ils ont la responsabilité ultime de tenir les personnels en uniforme individuellement responsables de leurs actes et doivent prendre les mesures préventives et punitives nécessaires. Je veux que les auteurs sachent que s'ils commettent un crime, nous ferons tout notre possible pour les poursuivre et les traduire en justice. Je veux que les victimes sachent que nous nous efforcerons d'assumer notre responsabilité institutionnelle pour préserver leur sécurité et leur dignité. Je veux dire aux victimes que nous sommes avec vous. S'il vous plaît, manifestez-vous. S'il vous plaît, soyez sûrs que nous ferons tout notre possible pour répondre à ces crimes scandaleux. Vous ne devriez pas avoir honte. Ce sont les auteurs qui doivent avoir honte.
Des envoyés internationaux concernés par la crise politique au Burundi ont exhorté les parties concernées à la retenue alors que le pays est dans l'impasse. Ils ont condamné les attaques récentes à l'encontre de diverses personnalités burundaises, dont un général, un défenseur des droits de l'homme et un journaliste. Ils ont aussi réitéré leur appel auprès des autorités pour la reprise du dialogue alors que le pays est plongé dans une situation de déclin économique, d'instabilité politique et sociale. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont quitté le Burundi, cherchant refuge dans les pays limitrophes, au risque de créer une véritable crise régionale. Tigé Chiferao.
Une équipe internationale d'envoyés spéciaux des Nations Unies, de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Belgique ont demandé un arrêt immédiat des violences au Burundi, ainsi que le respect des droits de l'homme et la reprise d'un dialogue politique inclusif. Pour les envoyés, seule une reprise des discussions entre le gouvernement et l'opposition sur des sujets de fond, tels que la liberté de la presse et autres formes de liberté, ainsi qu'une meilleure gouvernance, peuvent redonner une certaine crédibilité. Les envoyés ont réitéré que la violence ne résoudra pas la crise dans le pays, mais qu'au contraire ne fera qu'attiser l'instabilité. Par ailleurs, les envoyés ont exprimé leur inquiétude face à la décision de l'Assemblée nationale la semaine dernière d'éliminer les quotas garantissant un équilibre ethnique, de même que la parité entre hommes et femmes dans les comités de direction. Pour les envoyés, cette mesure démontre de la part du parti au pouvoir la volonté de rejeter un des principes fondamentaux de paix et de stabilité qui a permis au Burundi d'émerger d'une longue guerre civile.
Une nouvelle série de pourparlers interlibyens ont démarré à Genève mardi. Sous l'égide des Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Bernardino León, tente d'obtenir un accord pour la constitution d'un gouvernement d'union nationale par toutes les parties. Le gouvernement sera notamment chargé de conduire une nouvelle transition politique dans le pays. Bernardino León.
Le premier annexe, qui est peut-être la question la plus importante aujourd'hui en Libye, c'est le gouvernement d'unité nationale. Donc il y aura un dialogue spécifique sur cette question et nous espérons que tous les acteurs, y inclus le congrès de Tripoli, seront prêts à discuter ces deux questions. Parce qu'il y a un accord général, pas seulement dans tous les participants de dialogue, mais tous les Libyens sont d'accord qu'il faut aller le plus vite possible.
Au Yémen, des milliers de réfugiés somaliens ont été contraints de rentrer dans leur pays pour fuir la guerre à Aden. Ces réfugiés s'étaient exilés au Yémen suite à la guerre civile en 1991 et aux famines à répétition qu'a connu leur pays. Le dernier bulletin du Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires note que plus de 20 000 Somaliens ont été contraints d'emprunter le chemin inverse depuis mars dernier pour échapper au conflit opposant les forces loyalistes aux rebelles outils. Alpha Diallo.
Des milliers de Somaliens et de Yéménites ont traversé le golfe d'Aden par bateau pour gagner le Puntland et le Somaliland au nord-est de la Somalie. Selon le bureau de l'ONU de la coordination des affaires humanitaires, près de 29 000 personnes sont arrivées en Somalie depuis le Yémen depuis mars dernier. 90% d'entre elles sont des Somaliens. La majorité de ces rapatriés sont des femmes et des enfants qui sont retournés vers les régions du centre et du sud, dont plus de 5 000 dans la capitale Mogadiscio. Certains ont rejoint des installations pour déplacer des internes sur place. Mais ce retour de Somaliens pose de nouveaux défis pour les humanitaires, avec notamment une charge supplémentaire pour des services de base déjà limités. Une situation qui risque d'être plus préoccupante, d'autant plus que l'exode de ressortissants somaliens devrait se poursuivre. En attendant, les nouveaux arrivants reçoivent généralement une aide alimentaire et des biens de première nécessité. Il faut juste signaler que plus de 1,1 million d'habitants sont d'ores et déjà déplacés en Somalie en raison des combats entre les islamistes Shabab et les troupes gouvernementales appuyées par les forces de l'Union africaine en Somalie.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité, la situation humanitaire au Soudan du Sud qui préoccupe la MINUS, la mission des Nations Unies déployée dans le pays. La MINUS qui, depuis un an et demi, accueille de plus en plus de personnes déplacées avec tous les problèmes logistiques, sanitaires et humanitaires que suppose l'entassement durant la saison des pluies de près de 200 000 civils dans les bases de la mission, notamment à Bentiu et Malakal. Les explications de la porte-parole de la MINUS, Ariane Cantier, jointe à Djouba par Jérôme Longuet.
D'une façon générale, les bases des Nations Unies n'ont jamais protégé autant de civils qu'aujourd'hui. On a vu une croissance exponentielle depuis 18 mois, mais là, on est en train d'arriver à des chiffres incroyables. C'est-à-dire qu'on a près de 200 000 personnes, 200 000 civils qui sont aujourd'hui regroupés et sous la protection des forces de maintien de la paix de l'ONMIS sur 6 de nos bases. Avec deux points plus particuliers et où les choses sont très tendues, c'est d'une part Malakal, où on a un site qui est prévu pour moins de 20 000 personnes et qui aujourd'hui en accueille 46 000, sachant que depuis la mi-juillet, 16 000 personnes sont arrivées et que c'est non seulement un afflux énorme de personnes, de civils, mais c'est également un afflux soudain. Et on est obligé, avec nos partenaires humanitaires, les acteurs humanitaires, de faire face à cet afflux. Les gens viennent du nord de Malakal, très souvent pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons de sécurité alimentaire, pas seulement physique. Et aujourd'hui, on est face à des femmes et des enfants qui voudraient bien retourner chez eux au nord, mais qui en sont empêchés et qui n'arrivent pas à retourner avec la nourriture qu'ils ont réussi à obtenir en étant à Malakal. L'autre base où la situation est très tendue, c'est Bentiu. En Bentiu, là, on parle de plus de 120 000 personnes qui ont trouvé refuge sur nos bases pour un lieu qui a été conçu pour beaucoup moins et qui avait été tendu il y a quelques mois pour pouvoir abriter 85 000 personnes. Mais malgré tout, on est en excédent et les conditions sont extrêmement dures, d'autant que c'est la saison des pluies, ça veut dire inondations, même si un certain nombre de civils ont été déplacés vers des hauteurs dans les camps proprement dit. Cela veut dire eau stagnante et cela veut dire maladie qui dérive des eaux stagnantes et je pense en particulier malheureusement au choléra.
Justement, le choléra, l'OMS, pas plus tard qu'il y a deux jours, donc signalé près de 1500 cas. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, c'est une progression aussi importante du nombre de cas et surtout, quelles sont les perspectives ?
Côté choléra, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a peut-être le nombre de cas que l'OMS a donné. Mais en revanche, on a eu un mort hier, mais on n'avait pas de mort depuis le 27 juillet. Ce qui veut dire, en termes d'épidémiologie, qu'on est sur un début de récession de l'épidémie et de la maladie. Donc oui, il y a beaucoup de cas, mais on est dans la phase de récession.
Autre question concernant justement l'accès humanitaire à Malakal et l'accès par le Nil. Est-ce qu'aujourd'hui cet accès est facilité ? On le sait, il y avait eu des difficultés pour accéder aux personnes déplacées et venir en aide aux populations sinistrées.
Alors l'accès a été facilité par le gouvernement sud-soudanais. Il est vrai que nous n'avions pas eu un seul avion qui s'était posé sur l'aéroport de Malakane depuis la fin du mois de juin. Là, depuis lundi, mardi, mercredi, les vols ont repris avec des assurances du gouvernement qui nous ont laissé faire partir de vol. D'autre part, au niveau des barges qui remontent au Nil et qui sont vraiment une voie d'accès primordiale pour pouvoir fournir Malakane, les barges qui étaient bloquées sur le Nil, que ce soit les barges humanitaires ou les barges de l'ANMIS pour l'essence, ont aussi été autorisées à repartir le 10 août. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La reprise du trafic, que ce soit aérien sur l'aéroport de Malakane ou la reprise du trafic sur le Nil, va permettre de pouvoir fournir en aide alimentaire, en assistance et aussi faire les rotations des soldats de maintien de la paix sur Malakane.
Au Myanmar, le Programme alimentaire mondial se mobilise pour aider les plus de 200 000 personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire, vivant dans les régions les plus touchées par des inondations et le passage du cyclone Comen dans l'ouest du pays le 30 juillet dernier. Le PAM qui distribue du riz, des légumes, de l'huile, du sel et des biscuits énergétiques. L'agence dit agir rapidement pour fournir des secours et empêcher cette catastrophe d'exacerber l'insécurité et la malnutrition alimentaire déjà présente dans le pays. Le détail avec Nicolas Guillot, chargé d'analyse sur la vulnérabilité pour le PAM au Myanmar, au micro de Tsige Chiferao.
Le pays a subi de fortes pluies ces deux dernières semaines. Les pluies ont commencé par toucher le nord du pays, dans le nord d'une zone appelée la zone sèche, qui normalement reçoit très peu de pluviométrie annuelle. Donc ces pluies ont déjà commencé par créer des inondations assez localisées. Ensuite, une dépression tropicale s'est formée au large des côtes de l'Arakan, donc dans l'ouest de la Birmanie et du Bangladesh. Et cette dépression tropicale s'est transformée en tempête qui a elle-même amené de pluie et qui ont exacerbé le phénomène d'inondation qui s'était déjà produit dans le nord du pays. La tempête a causé quelques dommages sur les côtes et a mis beaucoup de pluie sur les zones côtières et sur les zones de montagne.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fait ces inondations ont touché quasiment la totalité du pays ou bien est-ce que ce sont des zones spécifiques ?
À l'heure actuelle, il y a 12 des 14 régions ou états du pays qui font face à des inondations. Mais les zones qui ont été le plus touchées sont les zones côtières de l'Arakan, donc à l'ouest, et pour l'instant le nord du pays, donc de la zone sèche. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ces pluies se sont accumulées dans les bassins versants et elles redescendent le long de la rivière principale qui s'appelle l'Irrawaddy. Et on s'attend à ce que le delta de l'Irrawaddy, donc qui se trouve au sud du pays, à l'ouest de Yangon, subisse lui-même des inondations.
Qu'en est-il de la population ? Combien de gens ont été affectés ?
Pour l'instant, les données que nous avons font part de plus de 300 000 personnes touchées par les inondations et des glissements de terrain, parce qu'il y a certaines zones de montagne qui ont subi des glissements de terrain avec des villes et des villages dont l'accès a été coupé parce que les routes ou les ponts ont été emportés par les glissements de terrain et les pluies. Donc les besoins ne sont pas les mêmes partout dans le pays, mais c'est plus de 300 000 personnes pour l'instant qui sont touchées par les inondations.
Et combien de victimes au total, pour le moment ?
Au total, le nombre de victimes, je crois, n'est pas très élevé au regard du nombre de personnes touchées. Je crois qu'il est d'environ 70 personnes, d'après les données officielles du gouvernement.
Et que fait le PAM pour venir en aide à tous ces sinistrés ?
Alors nous travaillons dans les zones les plus touchées par ces inondations, parce qu'elles correspondent aussi pour la plupart avec les zones où nous sommes déjà opérationnels. Et pour l'instant, notre objectif est de distribuer de la nourriture à 280 000 des 320 000 personnes touchées par les inondations. Et ce que nous faisons, c'est de la distribution de biscuits à haute valeur énergétique et ou de rations plus complètes, celles de riz, d'huile, de légumineuses et de sel.
Est-ce qu'on sait où se retrouvent ces personnes, vu que les endroits où ils résident sont inondés, où sont-ils hébergés ?
Alors, dans la plupart des zones sinistrées, les personnes ont été évacuées ou se sont rendues d'elles-mêmes dans des centres d'évacuation ou des zones protégées des inondations. Donc, elles sont pour la grande majorité rassemblées dans ces zones-là, même si il en reste encore dans les villages d'origine.
À combien évalue, pour l'instant en tout cas, l'aide nécessaire pour poursuivre cet approvisionnement du PAM ?
L'aide pour cette réponse d'urgence est estimé à 3 millions de dollars par mois, juste pour les besoins au regard des inondations.
Et c'est avec Nicolas Guillot que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Vous pourrez retrouver plus d'actualités onusiennes sur notre page internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.